Henri Bruyère, Une belle-mère dans le phonographe. L'hiver dernier, fin mars, au détour de la rue de Rouault, je me trouve nez à nez avec mon ami Paul V. Il était tout pâle. « Mais qu'as-tu donc ?» lui dis-je. « Oh, mon ami, j'ai peur. »« Toi, peur ?» Oh oui, peur, une peur horrible, atroce. Il y eut un silence, puis tout bas, il me dit, il y a 8 jours, j'ai tué quelqu'un. Tué, toi, c'est impossible. Tu as tué, mais qui? Ma belle-mère. Ta belle-mère? Mais elle est morte il y a 3 mois. Eh oui, mais je l'ai retuée. Ah ben ça devient fou. Oh non, mais j'ai peur de le devenir, si ça continue. Si ça continue quoi? Hein, sa voix. Quelle voix? Mais la voix de ma belle-mère. Oh, je connaissais la voix du sang, mais je ne connaissais pas, par contre, la voix de la belle-mère d'outre-tombe. Or, voici ce que me raconta mon ami Paul V. Tu sais comment ma femme est nerveuse, inquiète. Oh, elle n'est pas méchante, non, mais grincheuse, fantasque au possible. Oh, elle ne mord pas, non, mais elle égratigne. Certes, j'avais le plus profond respect pour celle à qui je devais la douce compagne de mes jours. Mais je ne dirais pas que je l'adorais, non, mais enfin, je la tolérais, bien qu'elle fût d'un caractère intolérable. Et j'avais commis cette faute d'introduire le loup dans la bergerie conjugale. Ma belle-mère logeait avec nous. Ma femme s'aperçut bien vite de mes rapports apparemment courtois, mais plus qu'au-dessous de zéro en réalité. Paul, me dit-elle, quelques jours après notre mariage, tu n'aimes pas ma mère? Je le vois bien, non, tu n'aimes pas ma mère. Mais si, ma bonne amie, répondis-je, je l'aime, mais enfin, je l'aime comme on aime une belle-mère, raisonnablement. Tu ne veux pas, n'est-ce pas, que je lui saute au cou toute la journée? Ça serait ridicule et ça serait même indécent. Et puis, sous prétexte de l'embrasser, dit ma femme. Tu avais envie de la mordre. C'est pas, dis-moi que ce n'est pas assez. Dis-le. Mais non, ma chère amie, mais non. D'ailleurs, raisonne un peu. On ne mange pas sa belle-mère. C'est pas une nourriture. Et puis, nous sommes en carême. Tu me forces à faire maigre. Et comme ta mère. C'est cela, dis tout de suite qu'elle te dégoûte. Mais non, ma chère amie, mais non, mais il y a des limites à tout. Oh, vos bornes sont bien vite atteintes. Ce ne sont pas les colonnes d'Hercule. J'en sais quelque chose, me dit-elle avec une moue de dédain énigmatique. Mais dites plutôt que vous ne pouvez pas sentir ma mère. Vous ne pouvez pas la voir en face. Mais si, ma bonne amie, répondis-je, en face, le profil de 3/4, je vous assure que je la vois sans déplaisir. Oui, surtout de dos, quand elle s'en va. Oh, on ne me trompe pas, moi, allez, non, non, vous n'aimez pas ma mère. Les écluses étaient ouvertes. Alors vinrent les hoquets, les sanglots et la crise de nerfs obligatoire. Madame Morlaix, ma belle maman, accourut, les yeux en feu, les dents serrées, la voix sèche et sifflante. Encore, encore, monsieur, encore. Oh, je savais bien que vous n'aimiez pas ma fille, ma pauvre fille, mon Héloïse. Oh, si elle ne m'avait pas, monsieur, si elle ne m'avait pas. Vous avez encore fait une scène. Mais non, je vous jure. Oh, ne vous jurez pas, monsieur. Ne jurez pas. Mais c'est ce que valent vos serments. Oh, si je voulais dire tout, tout ce que je sais, monsieur, vous êtes joueur, vous êtes coureur, vous arriverez en retard. Aidez-moi au moins à la délasser, monsieur, si vous avez un peu de cœur. Et là, allez, tenez le flacon de sel. Faites-lui respirer. Non, pas comme ça. Sous le nez. Vous lui mettez dans l'œil. Oh, les hommes. Et lentement, ma femme rouvrait un œil languissant. Et en m'apercevant, elle bêla. Oh, Paul, tu n'aimes pas ma mère. Et Madame Morlaix ajouta de sa voix sèche, en tordant son mouchoir dans ses doigts crispés. « Oh, monsieur, vous n'aimez pas ma fille !» Et depuis 1886, date de mon mariage, c'était comme ça 365 jours par an, 366 les années bissextiles. Il y a 3 mois, Madame Morlaix s'en alla vers un monde meilleur, et je la conduisis jusqu'au seuil de sa nouvelle demeure avec tout le respect qui lui était dû. La poche à tempête, une fois calmée, j'espérais jouir enfin d'une accalmie. Ah non, ce n'était pas fini. Tout à sa douleur, ma femme s'enfermait souvent seule. Oh, c'était naturel et je me gardais de troubler cette touchante retraite. Un soir, j'entendis causer dans la chambre. Oh, qui pouvait bien être avec elle? J'approchai l'oreille de la porte. Horreur! Elle causait avec sa mère. Oui, c'était bien la voix sèche et sifflante de Madame Morlaix, seulement avec une bratique dans la bouche. C'était ma belle-mère et c'était Polichinelle. Et j'entendis le dialogue suivant. « Tu m'aimes, ma chérie ?»« Oui, maman. »« Oh, ton mari est un monstre !»« Ma fille qui te fera mourir de chagrin, et moi aussi. »« Oh, maman !» Et ici, les larmes, les sanglots de ma femme. Quand je serai morte, tu penseras à moi, dit ma chérie. Et si ton mari te rend malheureuse encore, tu me confieras tes peines, car je suis ta mère, moi, ta bonne maman. Oh, je sentis que je devenais fou. Comment ? Elle était encore là ? Celle que je n'avais pas tuée 1000 fois. Oh, je ne sais pas comment, car ma douceur n'était que comédie. C'est donc vrai que les belles-mères, qu'il y a des belles-mères qui reviennent entendre des voix qu'elle avait sur la terre, sa voix bien désagréable déjà, mais oh mon Dieu, se mettait à parler le nez au fond de la tombe pour me narguer, sans doute. Je fis un clin d'œil à la serrure. Ma femme était assise devant un petit guéridon sur lequel se trouvait une étrange machine. Elle se composait d'un cylindre qui tournait avec une sorte de grésillement de poils à frire, devant divers rouages mus par une pile électrique et d'un grand pavillon porte-voix en zinc, adapté devant un cylindre, et c'était de ce porte-voix métallique que sortait la voix charmeresse de Madame Morlaix, qui à chaque tour répétait en nasillant « Tu aimes, tu ris, tu m'aimes, ton mari est un monstre !» D'un coup de pied, j'enfonçai la porte, je voyais rouge. Au bruit, ma femme s'était levée. « Madame, lui dis-je, quelle est cette plaisanterie ?»« Une plaisanterie, monsieur ? Ne profanez pas une tombe. C'est ça, une tombe, mais c'est guignol. Oh, le lâche, il insulte la voix de ma mère. Alors, c'est là-dedans qu'elle est, ricanai-je. Oui, monsieur, oui. Ma mère et moi, nous savions bien que rien ne serait sacré pour vous. Elle, une fois partie. Et c'est pourquoi nous lui avons confié au phonographe sa voix chérie. Elle m'a fait ce cadeau pour ma fête, à votre insu, monsieur. Et elle est là, toujours là, monsieur, présente, encore. Elle nous entend, monsieur, elle vous juge. Horrible and most horrible. La petite mécanique d'Edison fut un petit bruit sec de déclic, comme les os de squelette qui s'entrechoquent, et la voix de Cressel de Madame Morlaix reprit de plus belle. « Tu m'aimes, ma chérie. Confie-moi sans peine. Ton mari est un monstre. » Ah, pour le coup, c'était trop tard. Oh, c'était trop. Mon pied me démangeait. La porte en morceaux ne suffisait pas à ma vengeance. Et l'horrible machine parlait toujours avec sa voix de polichinelle. Alors tout à coup, vlan, dans le phonographe. Mon pied était parti tout seul, involontairement. D'un côté le guéridon et quatre pattes en l'air, et de l'autre, la petite machine détraquée qui, dans un dernier râle de courant, agonisait, disant « Tu m'aimes, ma chérie, tu m'aimes, dis-le à ta pauvre mère. » « Ton mari est un monstre !» m'écriai-je. « Je le sais bien, je le sais par cœur !» Une dernière convulsion de la petite bête électrique, et ce fut fini. « Monsieur, monsieur !» cria ma femme échevelée, « je vous attends devant les tribunaux. Vous avez tué la voix de ma mère !» Il y a 8 jours de cela, mon cher, ma femme s'est retirée chez une vieille tante. Non seulement elle refuse de réintégrer le domicile conjugal, mais elle veut plaider en divorce, et même elle est allée consulter 3 avocats pour leur demander si on ne pourrait pas me juger en cour d'assises. Eh bien, enfin, le croirais-tu? J'ai des remords. Oui, cette femme peu aimable, c'est vrai, mais qui était quelqu'un, il restait encore quelque chose, une partie d'elle-même, sa voix, qui était encore là, puisqu'on l'entendait. Oui, cette voix, je l'ai tuée.